excuse donc pour ce retard. Hein. Comme l'a dit Mustapha, il était dû au fait qu'on a eu aujourd'hui, puisque c'est le dernier week-end du mois de juin, beaucoup d'activités avec les enfants en particulier, et que ben, les enfants ont fait tout pour leur faire plaisir. Donc il faut les gâter, dans l'espoir, Inch'Allah, qu'ils aiment notre religion encore plus. Pour faire la transition, je crois que c'était mercredi ou jeudi, je ne sais plus, Allah alam, j'ai reçu un texto. Donc il y a des frères, alhamdoulilah, qui utilisent bien la technologie pour transmettre des informations importantes. Donc le texto disait qu'il y a actuellement un vote sur Europe 1 à propos des parents voilés qui accompagnent les enfants lors des sorties scolaires. Donc c'était une discussion, hein, ils font des thématiques sur la radio. Ensuite, ils invitent le public à voter. Êtes-vous pour ou contre? Donc le frère envoie ce texto et il dit, vite votez, ouais, réagissez. Et après, subhanallah, le soir même ou le lendemain, il y a un frère qui m'a donné les résultats. Il m'a dit, à midi, je crois qu'ils étaient à 67% qui étaient contre. On est contre le fait que les parents accompagnent leurs enfants quand il y a une sortie scolaire, une activité scolaire. Parce que les mères sont voilées, hein, sont des musulmanes voilées. Grâce à ce texto, grâce à Facebook, etc., alhamdoulilah, les musulmans ont réagi, et en fin d'après-midi, c'était 73%. Les chiffres ne sont peut-être pas exacts, mais en tout cas, c'est passé carrément dans le sens opposé. Donc 73% sont pour le fait que les parents accompagnent les enfants. Pour vous dire que, regardez, subhanallah, quand j'ai reçu ce texto, je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon fils Luqman, vite, va sur internet et vote. Moi je ne sais pas ouvrir l'ordinateur. Donc sur place il a voté, ça fait une voix de plus. Pourquoi est-ce que je lui ai dit de voter? Parce que il est clair et net que celui qui considère que sa voix n'a pas d'importance et de valeur, vous entendez? Ceux qui disent que c'est pas parce que moi, en tant qu'individu seul, je vais voter, que ça va changer quelque chose. Ceux qui pensent comme ça, ce sont eux qui empêche la communauté musulmane d'avancer. Vous savez, ces musulmans défaitistes, pessimistes, ces musulmans spectateurs, ces musulmans qui ne sont pas prêts à envoyer un mail à une chaîne de radio, une télévision, pour exprimer leur mécontentement, leur désaccord, leur désapprobation, sous prétexte que ça ne sert à rien. Ce sont ces musulmans qui, de manière indirecte, participent à quoi? Au ralentissement de l'évolution de notre religion. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Nous sommes tous responsables. Nous avons tous quelque chose à faire à son niveau. Vous entendez? Envoyer un SMS, ça peut changer quelque chose. Vous voulez la preuve? La preuve, c'est lors de la bataille de Tabouk, l'année 10 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invite sa communauté à participer à un effort de guerre sans précédent. Nous allons aller cette fois vers l'ennemi, et pas n'importe quel ennemi, à Roum, les Byzantins. Les Byzantins qui représentaient à l'époque le bloc de l'Ouest, l'OTAN. Ok? Il y avait deux empires, les Perses, bloc de l'Est, l'URSS, l'Ouest, l'OTAN, les chrétiens. Vous vous rendez compte? Petite communauté musulmane à Médine, une religion naissante, une cité-État, quelques dizaines de milliers d'individus qui défie le deuxième empire de l'époque. Que dis-je ? Ils ont déjà fait l'expérience avec Mu'ta en l'année 9. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va attaquer avant de se laisser attaquer. Vous avez compris ? Pourquoi tu restes chez toi et tu attends que l'ennemi rentre chez toi et fasse le hala chez toi ? Bouge ! Va de l'avant. Ça s'appelle la guerre préventive. Vous entendez ? Et si tu veux la paix, prépare la guerre. Ce n'est pas un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un proverbe romain, que les Romains ont appliqué d'ailleurs. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est-à-dire, si tu veux vivre en paix avec tes voisins, il faut que tes voisins sachent que tu as les moyens de les repousser le jour où ils te déclarent la guerre et ils veulent ta peau. Vous avez compris ? L'arme de dissuasion. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Pourquoi ? C'est quoi l'objectif ? Turhibuna bihi. Afin que tu fasses peur à qui ? Aux méchants. Qui n'attend que l'occasion pour te sauter dessus. Montre-lui que tu es capable de le repousser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les sahaba à participer à cet effort de guerre. Et tout le monde va participer, sauf, retenez, hein, tout le monde va participer sauf les hypocrites. Al-Mu'azzirun, ceux qui sont venus apporter des fausses excuses. Waja'aka al-Mu'azzirun. Et ils sont venus vers toi pour te dire Idhanli wa la taftinni, donne-moi la permission de rester. Je ne peux pas t'accompagner et aller dans le territoire byzantin car c'est trop risqué pour ma foi. Ils ont des belles femmes. Elles peuvent me dérouter. Voilà, taftini. Vous vous rendez compte comment ils sont culottés ? Faut le faire quand même. Le mec qui vient et dit au prophète, salam, écoute, je ne peux pas y aller avec toi. Imagine-toi, je tombe amoureux. Vous rendez compte le barata qu'ils ont sorti ? Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire ? C'est ce qu'il va leur dire ? Rentrez chez vous. Ouais. Et Dieu va le lui reprocher. Afallahu anka lima adinta lahum. Dieu va lui dire, tu n'aurais pas dû leur dire cela. Tu aurais dû les mettre devant le fait accompli. Vous venez, vous êtes de véritables croyants aux yeux des gens. Moi, je sais que vous êtes des hypocrites. Vous ne venez pas, alors vous êtes des ennemis. Vous êtes des lâches, vous êtes des traîtres. Vous sabotez la communauté musulmane. Elle est en danger et au lieu de faire front, qu'est-ce que vous faites ? Vous pleurnichez, vous sortez des excuses. Qui était excusé ? Les aveugles. Ceux qui ne pouvaient pas marcher. Al-A'raj. Al-A'ma. Al-Marid. Le malade. Les femmes et les enfants. Bien que certaines femmes ont participé. Alors, qu'est-ce que vont faire les musulmans sincères ? Ils vont participer à cet effort de guerre, chacun en fonction de ses moyens. Et voilà que Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, dépense des millions d'euros. Abdurrahman ibn Auf, des millions d'euros. Ce sont de riches commerçants musulmans. Ils font partie des 10 qui sont voués au paradis. Vous avez entendu les jeunes ? Vous avez compris ? Qui a aidé et qui a soutenu l'islam ? Quelle est la personne qui a le plus défendu le prophète alayhi salam et qui a le plus donné, qui s'est le plus sacrifié ? C'est Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Pourquoi ? Parce qu'il était riche. Ma nafa'ani malun. Personne ne m'a été autant utile qu'Abu Bakr avec son argent. Vous vous rendez compte ? La force financière, comment elle a été importante, déterminante au début de l'avènement de l'islam. S'il n'y avait pas eu Abu Bakr, il n'y aurait pas eu Bilal, il n'y aurait pas eu Zennera, il n'y aurait pas eu tous ces esclaves musulmans qui ont été libérés alors qu'ils subissaient les pires sévices. Les riches musulmans viennent et font largesse de leurs biens. Et les pauvres, ils font quoi? Ils restent chez eux. Ils disent, on est pauvres. Les pauvres vont participer. Et voilà qu'un musulman vient avec quoi? Avec deux poignées de blé, de l'orge, ce que tu veux, de la farine. 500 grammes de farine. Et dit, voilà, c'est tout ce que j'ai. Je vais participer avec un peu de farine qui servira pour faire du pain pour les soldats. Et tout ça en public, pas en privé. Vous entendez? Et les spectateurs sont les meilleurs commentateurs. Astaghfirullah, les pires commentateurs. Ils sont assis et ils assistent à la scène. Certains déposent des milliers d'euros, d'autres déposent quelques centaines, certains déposent quelques dates. Et à votre avis, qu'est-ce que disent les hypocrites? Ils disent, Hada qui a mis des millions d'euros, c'est quoi? C'est pas quelqu'un de sincère. Il a fait ça pour crâner, pour que les gens l'applaudissent. L'autre qui a ramené quelques grammes, il lui manque une case. À quoi ça sert? Qu'est-ce que va faire l'islam? En quoi ça va renforcer la communauté? Quelques grammes de blé. Vous avez vu? Les hypocrites, tu donnes des millions, ils te descendent. Tu donnes quelques centimes, ils te descendent. Pourquoi? Parce qu'ils sont contre le fait que tu participes. Et parce que tu participes, tu les déranges car ils ne participent pas. Tu les mets en porte-à-faux. Donc vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent que personne ne donne, ni peu, ni beaucoup, pour qu'ils soient tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire ils veulent que tout le monde se retienne. Eh oui, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va participer à cette bataille. Ça va être une victoire éclatante, cette expédition, parce que l'ennemi va fuir. Forfait. Vous vous rendez compte? Forfait, les Byzantins font forfait. Le prophète va jusque Tabouk. Avoue que c'est la frontière avec la Jordanie aujourd'hui. Et ils viennent pas, ils fuient devant le prophète, alayhi salam. Tout ça grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce à l'effort des compagnons qui ont participé chacun à son niveau. Il y en a un qui a pleuré. Oh, il a pleuré, vous ne pouvez pas savoir comment il a pleuré, comme un enfant. Il s'appelle... J'étais tellement pressé, je suis sorti en courant, j'ai oublié. J'avais préparé des plaques de chocolat comme ça pour les enfants. Et je les ai oubliées. Vous m'excusez les enfants? Vous m'excusez? Sinon je m'en vais les chercher. Non? Vous voulez que je retourne les chercher? Non? Allahi barak. Vous leur avez donné des bonbons?
Tu sais pas.
Staffa, il est fatigué.
Chaque mois, ils ont des bonbons.
Chaque mois, ils ont des bonbons. Masha'Allah, c'est une bonne cadence.
Non, mais je peux pas te confirmer.
Khalas, on verra avec. On lui fera sa fête tout à l'heure, Inch'Allah. S'il a donné, on fait la fête. S'il n'a pas donné, on lui fait la fête. Ouais. N'hésitez pas, Allah ibarak fikoum, quand il y a des activités comme celle-ci, à venir avec un petit sachet de chocolat et de bonbons pour les enfants. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une manière de participer. Vous savez, quelques grammes de farine. Ouais. Parce que c'est un jihad qu'on est en train de faire. Le fait d'amener des enfants à la mosquée et de les retenir à la mosquée et de leur offrir et de les servir. C'est un jihad, vous entendez? Parce qu'il y en a d'autres qui font tout pour nous prendre nos enfants, pour les détourner, pour les égarer. Et ils le font bien, oui ou non? Ils le font bien. Vous avez vu les dessins animés, comment ils sont? Vous avez vu les jeux, comment ils sont? Vous avez vu à l'école ce qui se passe, comment ils sont bien entretenus? Et là, nos enfants viennent à la mosquée et c'est plat, encéphalogramme plat. Personne n'a un cœur sensible qui bat pour les petits musulmans qui viennent par dizaines, par centaines. On ne sait même plus où les mettre ni quoi en faire. Allahu Akbar. Allah nous les ramène sur un plateau. Et nous, on a tendance à quoi ? À négliger cela. Alors que, Wallah al-Adim, ouvrez bien vos oreilles. Les actes ne valent que par les intentions. Avant de venir à la mosquée, tu passes par Lidl ou Aldi. Carrefour ou Auchan. Bref, tu vas où tu veux, ça ne m'en regarde pas. Et tu ramènes quelque chose qui peut faire plaisir aux petits musulmans de la mosquée avec la niya qu'Allah les préserve du poison de notre société. Ben vous savez ce qui va se passer. Cet enfant, inshallah, deviendra, grâce à votre bonne intention, un musulman, un bon musulman, un musulman excellent. Tu sais pas. Fais et tais-toi. On néglige des petits détails qui sont en fait fondamentaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il croisait des enfants, qu'est-ce qu'il faisait ? Il les saluait. Il s'arrêtait et il saluait les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il croisait des gosses, il s'arrêtait et il les embrassait. Il les caressait. Il leur faisait des doas, des invocations. Est-ce que vous entendez ? Et tous ces gosses qui bougent, Allah ybarak fikoum, ne laissez pas un gosse passer devant vous sans avoir laissé une trace. Où ça ? Dans l'âme de cet enfant. Un geste, une parole, une doa pour qu'Allah le protège et le préserve. Non, on les croise, on passe devant eux et on ne les calcule même pas. Vous allez en avoir bientôt, vous allez voir. C'est la panique une fois qu'on a des gosses, parce qu'on a peur de les perdre. Vous entendez ? On a peur de ne pas savoir les éduquer comme il se doit. J'en cours vers une parenthèse et j'ai oublié le tronc. Oui, Ahsant. Bravo, Mustapha. C'est la preuve que tu es concentré. Voilà. En fait, je voulais quoi ? Je voulais dire, dites-moi qui est-ce et je vous donne une plaque de chocolat. Voilà, c'était à cause de la plaque de chocolat. Mais j'ai rien à donner. La râle. Rien du tout. Même 1 euro, je ne peux pas le donner. Ils m'ont ruiné tout à l'heure, les gosses. Une doua, ouais. Ouais, c'est pas mal. Sahih. C'est même super, tiens. Qui est ce jeune homme qui a pleuré parce que il n'a pas pu participer ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu restes, tu vas me remplacer, tu vas diriger Médine, tu vas t'occuper des femmes et des enfants, des impotents et des malades. Il a dit, prophète, tu me laisses avec les femmes et les enfants ? Je suis un homme, je suis un rajl, je veux y aller avec toi. Le prophète lui a dit, non, chacun sa place. C'est pas un aveugle. Ça, c'était une autre fois, dans une autre expédition, il a laissé l'aveugle Abdullah ibn Ummi Maktoum. C'est Haydara, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Haydara, c'est le lion. Ouais, on l'appelait le lion, Haydara. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, son cousin, son gendre. Vous vous rendez compte, il pleure. Pourquoi est-ce qu'il pleure ? Parce que ils se sont privés de quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas été pris pour jouer la finale. Il va rester sur les bancs. Tu t'imagines, toi ? Tabouk, ce que c'est ? C'est pas n'importe quoi, Tabouk. Comment, prophète ? J'y vais pas ? Non, pitié, s'il te plaît, laisse-moi y aller. Non, Ali, c'est très important, tu vas rester. Ben, vous savez, pour le réconforter, pour qu'il reste. Parce qu'il lâche pas les baskets, Ali. Il insiste pour y aller. Et le prophète va le calmer. Il va le réconforter, il va l'apaiser. Il faut qu'il lui dise quelque chose qui vaut la peine. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire, « Ya Ali, tu devrais être satisfait. Tu es pour moi ce qu'était Haroun pour Moussa. Tu es pour moi ce qu'était Haroun pour Moussa. » Et Haroun, c'était qui ? C'était le frère de Moussa, qui n'était pas prophète. Vous savez pourquoi il est devenu prophète ? Il est devenu prophète parce que Moussa a dit « Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ». La meilleure dua qu'un frère ait pu faire pour un frère, c'est la dua de Moïse qu'il a faite pour son frère. Il a dit « Allah, fais de mon frère un prophète ». Et Allah a fait de Haroun un prophète pour les beaux yeux de Moussa alayhi salam. Donc tu es mon second. Ouais, tu es mon bras droit. À part qu'il n'y aura plus de prophète. On est bien d'accord. C'est-à-dire, Haroun était prophète, mais toi, Ali, tu ne seras pas prophète. Malheureusement, les chiites prennent ce genre de hadith pour dire eh, « Attendez, Ali est spécial, il a un rang au-dessus, c'est pas un être humain comme les autres, comme Haroun, pour Moussa, il y avait quelque chose de spécifique, Ali, avec le prophète, il y avait quelque chose de spécifique. » Et vous savez qu'est-ce qu'ils nous sortent comme baratin? Ils nous sortent le baratin suivant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a laissé quelque chose qu'il n'a pas laissé aux autres, un savoir particulier, spécial, que personne n'a, sauf Ali. Et Ali l'a gardé pour lui. Et ensuite, il a transmis à son fils Al-Hassan. Mais Al-Hassan l'a arnaqué. Puisque Al-Hassan, quand il est devenu calife après la mort de son père Ali ibn Abi Talib, 6 mois après, il s'est retiré. Il a laissé la direction de la communauté à Muawiyah ibn Abi Sufyan. Alors, les chiites coincés, ouais, ils sont bloqués. Puisque Al-Hassan, c'est un traître. Vous êtes bien d'accord, il leur a fait à l'envers, en bon français. Vous savez ce qu'ils t'ont fait? Et hop, ils ont sauté, ils t'ont dit, bon, c'est Al-Hussein. Tout est passé chez Al-Hussein. C'est, ça a été, comment vous dites en informatique, quand tu transférais? Un transfert de données, c'est ça. Allez, le disque dur qui était chez Ali, qui est passé à Al-Hassan, ils l'ont transféré chez Al-Hussein. Copier-coller. Très bien. Et Al-Hussein va le transmettre à son fils, Ali Zayn al-Abidin, qui va le transmettre à son fils et à son fils. C'est de la folie, c'est... Mais il se base sur ce genre de hadith. Parenthèse fermée. Ali pleure parce qu'il ne peut pas participer. 6 personnes vont venir dire, Ya Rasulallah, on veut participer à cette expédition, mais nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas de monture. Nous n'avons pas de quoi nous nourrir. Nous n'avons que notre personne, notre volonté, notre rage de faire quelque chose pour cette communauté, ne serait-ce que la protéger contre l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, je suis désolé, je n'ai rien à vous apporter. J'ai plus d'armes, j'ai plus de chevaux, les comptes sont vides, rien. Tawallaw, ils s'en allèrent, wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i. Ils firent demi-tour, ils s'en retournèrent en pleurant. Des hommes. C'est ce que c'est un homme. On dit qu'un homme ne pleure pas. En fait, c'est faux, hein, les hommes pleurent, mais pleurent pour du vrai. Ouais. Pleurent pas pour s'amuser. Vous savez pourquoi ils pleuraient? Ils pleuraient parce qu'ils ne pouvaient pas participer. La hawla wa la quwwata illa billah. Ah, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ah non, on pleure pour ne pas faire quelque chose. Et si on nous coince dans un coin, on nous demande de ramasser les papiers, on tape l'esquive. Si on nous demande de faire quelque chose dans la mosquée, pour l'islam, on fuit, on tape l'esquive. On est mal à l'aise, on est gêné, on n'en veut pas. Alors que ses compagnons ont pleuré parce qu'ils n'ont pas pu participer à un effort pour la communauté. Vous vous rendez compte la différence? On devrait tous être motivés pour faire quelque chose pour l'islam, pour les musulmans et pour les êtres humains en général. On devrait tous avoir un cœur où il y a de la miséricorde, où il y a de la pitié, où il y a de l'amour, où il y a de la bonté. Et partager ces beaux principes. Avec qui? Avec les autres. C'est pour cela, Allah ybarak fikoum, ouvrez bien vos oreilles. La communauté ira mieux lorsque sa jeunesse se sentira responsable. Lorsqu'elle va se responsabiliser, lorsqu'elle va dire, Je dois jouer un rôle. J'ai quelque chose à faire. Quels sont donc ces rôles que vous devez jouer dans la communauté? Le premier, c'est être de bons musulmans pour refléter une bonne image de l'islam, pour sauver surtout votre peau. D'accord? Le deuxième, c'est de ne pas vous écarter du groupe. Le groupe, c'est la mosquée. C'est ta communauté, là où tu habites, dans ta ville, dans ton quartier. Vous entendez? C'est avoir des liens, des relations. On en a déjà à travers la prière de Jumu'ah, oui ou non? Mais Jumu'ah, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, heureusement qu'Allah l'a rendue obligatoire. Car si elle n'était pas obligatoire, on ne mettrait pas les pieds à la mosquée. Pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. Tiens, voire peut-être même 1 an, le jour de l'Aïd. Non, l'Aïd, ce n'est pas obligatoire. Bon, vous venir quand? Si je le sais. Vous savez quand? Quand il y aura un mort. Un proche, pas un lointain. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est une réalité. Nos jeunes ont tendance à quoi? À fuir les mosquées, à ne pas y mettre les pieds. Alors qu'ils ont du temps. Hein. À la rigueur, en hiver, je veux bien. Le Maghrib, il est à 5h moins quart, et l'Aïcha, il est à 6h10. Les journées sont courtes, on est occupé. Mais là, en été, vous êtes bien d'accord? Le Maghrib, il est à 10h du soir. À 10h, tu bosses pas quand même, non? Tu fais rien. Ah, viens, prie et rentre chez toi et dors. C'est pas normal. Ce n'est pas... C'est un mauvais présage, ça. C'est très dangereux. Celui qui n'a pas une relation quotidienne, j'exagère peut-être, elle est tous les 2 jours. Non, en fait, non. Pourquoi pas quotidien? Pourquoi pas? Dès qu'on prend bien sa voiture et on se déplace pour aller chercher à boire et à manger. Enfin, il faut se déplacer, il faut aller à la mosquée. Il faut brûler du gasoil pour aller à la mosquée. Ouais. Pour acheter, pardon, pour récolter des hasanats. Cette personne sera en l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura pas d'ombre. Cette catégorie d'individus seront à l'ombre le jour où le soleil se rapproche de nos têtes. On va brûler, on va fondre au soleil. Parmi ces 7 personnes, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Quelqu'un qui a le souci en permanence d'aller à la mosquée pour accomplir ses prières. Il accomplit une prière, il calcule. Il gère son temps par rapport à sa présence à la mosquée. Il fait partie des 7. Et un autre, un jeune, un jeune qui marche droit dès son plus jeune âge. Hein, il est correct dans la religion. Un jeune qui n'a pas connu les zigzags, les dérives, les égarements. Vous vous rendez compte? Le privilège, la chance. Donc, un contact, une relation, un lien fort. Avec quoi? Avec le groupe. La main de Dieu est avec le groupe, pas avec l'individu isolé. L'individu isolé est quoi? Il est entre les mains du diable, il joue avec lui. Ouais. Plus vous éloignez du groupe, plus vous êtes proche de l'enfer, plus vous êtes loin du paradis. Troisièmement, il faut s'impliquer. Ouais. Et il faut donner de son temps, de ses moyens intellectuels, de ses moyens matériels pour la communauté. Ouais. Qu'est-ce qui gère la mosquée? Qu'est-ce qui fait toutes ces activités? Une association, des personnes, des hommes et des femmes, c'est ça? Qui donnent de leur temps, de leurs compétences, qui donnent de leurs moyens pour que la mosquée soit vivante. Et pourquoi nous, est-ce qu'on ne participerait pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on participe? Pourquoi on ne vient pas offrir ses services à la mosquée? Je suis disponible, j'ai du temps. Et si je n'ai pas de temps, je vais trouver du temps. Voilà, je suis prêt à faire telle chose. Je suis prêt à accomplir telle mission. Et vous allez voir, si chacun donne un peu de son temps, la mosquée ira encore mieux. on pourra encore faire plus de choses, on pourra être plus efficace, on pourra mieux éduquer nos enfants, mieux les protéger. Et on pourra aussi ramener encore plus de gens qui n'ont pas la chance de connaître ce que c'est que la mosquée. Regardez, chez nous à Écodin, cette année, il y a deux personnes qui ont décidé de s'occuper des relations extérieures avec les non-musulmans. Et là, aujourd'hui, ils ont fait une journée porte ouverte. Ils ont invité la paroisse, les relations avec le curé de la ville sont très bonnes. Et aujourd'hui, la mosquée était remplie. Ils sont venus à l'heure de l'Asr et ils ont été accueillis. Et on leur a expliqué ce que c'est que la mosquée, ce qui se fait dans la mosquée, ce qui se dit dans la mosquée. Et alhamdoulilah, les musulmans et les musulmanes sont venus pour justement qu'il y ait un échange, qu'il y ait de la proximité, pour qu'ils découvrent ce que c'est que, non pas l'islam uniquement, mais ce que sont les musulmans à travers l'échange. Très positif. Grâce à quoi? Grâce à deux personnes. Ils ont dit, écoute, nous, c'est tout ce qu'on va faire. On fera rien d'autre. J'ai dit, écoutez, bouchez-moi ce trou, s'il vous plaît, Allah ybarak fikoum. Faites-moi ça et ne faites rien d'autre. Rien d'autre. Toute l'année, vous entretenez les relations, vous faites des échanges, etc., etc. Voilà. C'est pas une bonne action, ça? C'est pas nécessaire? C'est pas obligatoire? Dieu n'a-t-il pas dit, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا? Dieu ne nous a-t-il pas demandé à nous d'inviter les juifs et les chrétiens? Ta'alaou, ta'alaou, ça veut dire quoi? Ça veut dire venez, chez nous, on doit aller les inviter. Pourquoi? Pour dialoguer, pour discuter, pour trouver un terrain d'entente. C'est une obligation. Qul, tu dois le faire en tant que musulman. Et c'est possible de le faire. Il nous suffit de 2-3 personnes convaincues du bien fondé de l'action. Il faut un programme. Et dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous verrez. Ça existe déjà dans d'autres endroits. Il suffit, à travers l'association, de développer cette activité. Regardez tous les enfants qui viennent à la mosquée. Hein? Ils viennent le dimanche pour apprendre quoi? Pour apprendre l'arabe, oui ou non? Pour apprendre les bases de la religion. C'est très bien. Ne trouvez pas que c'est le moment quand même. C'est déjà passé, vous allez le faire depuis longtemps. Que ces mêmes enfants viennent le samedi, pas pour l'arabe cette fois, pour le français. C'est une catastrophe. Nos jeunes, ils ne savent pas lire. Quant à écrire, ça relève du miracle. Un jeune aujourd'hui qui sait faire une phrase sans faire de faute, même pas une phrase bien construite avec des fautes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous m'entendez? Les gosses grandissent et ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire le français. Donc celui qui ne sait pas lire ne lit pas. Celui qui ne lit pas va avoir un vocabulaire pauvre. Il ne va pas savoir parler. Donc il ne pourra pas échanger avec les gens. Il va vivre de manière... C'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce que ça nous coûte d'organiser un programme? Les grands viennent, chacun prend en charge 3-4 enfants, ça s'appelle du tutorat, c'est ça? Et vous faites quoi? Vous faites un atelier lecture. Farkat! Attendez, vous savez ce que vous allez leur faire lire? Vous prenez le Coran traduit en français et vous leur faites lire le Coran traduit en français. Vous faites d'une pierre deux coups, oui ou non? Allez, ouvre-moi le Mus'haf, vas-y, le Baqara, la vache. Au nom de Dieu, le Clément, le Misa. Après 6 mois, il va te lire le Miséricordieux. Bien sûr, il ne comprend pas ce que ça veut dire miséricordieux. Après la lecture, tu lui sors une petite fiche de vocabulaire, 3-4 mots, et tu lui dis ces mots, tu les apprends pour la semaine prochaine. Franchement, vous ne trouvez pas qu'après 2-3 ans, nous allons avoir des jeunes qui savent lire et sans doute qui vont aimer la lecture. Oui ou non? Et après, tu peux leur remettre des livres. Dans tous les domaines, ils vont te les consommer. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et nos jeunes s'ennuient. Vrai ou faux? Allez, nos jeunes s'ennuient, nos enfants s'ennuient. Regardez, c'est les vacances là, oui ou non? Il y en a qui ne vont pas partir en vacances, et il y en a qui ne vont pas aller à l'étranger, ou ailleurs en France. Ils vont rester là où ils sont, ils ne peuvent pas se déplacer. Qu'est-ce que vont faire ces enfants pendant un mois? Billahi alaykoum, dites-moi. Ils vont prendre la tête à leurs parents. Et leurs parents, en réaction, vont leur prendre la tête. Et voilà, le conflit naît dans les familles. À cause de quoi? À cause d'une incapacité qu'ont les parents à gérer. Parce que c'est pas évident, vous savez. Alors vous savez ce que vont faire les gosses? Ils vont passer leur journée, la télé, les jeux. S'ils savent aller sur Internet, ce sera sur Internet. Ou dans la rue. Pourquoi est-ce que la mosquée, pendant un mois, n'ouvre pas ses portes les après-midi, par exemple, aux enfants? Mais il nous faut des jeunes comme vous qui viennent et qui parrainent 5 gosses. Pendant 1 heure, tu leur fais de la lecture. Pendant 1 demi-heure, tu fais une pause. Tu joues avec eux. Après, tu fais un atelier cuisine. Venez, on va faire des crêpes. Tu leur montres. Venez, on va faire à manger. Tu leur montres. Le gosse apprend. Tu lui enseignes à devenir autonome. Tu lui enseignes à faire des choses. Il va gagner confiance en lui-même. Voilà, de 14h... Non, tu le ramènes à 13h30. Comme ça, il fait dohar. C'est ça? Il apprend la prière. Il y a beaucoup de jeunes, ils ne savent pas faire la prière, les enfants. Franchement, vous ne trouvez pas que c'est du bénéfice net? Pour nous et pour eux. Les compagnons ont pleuré, certains, parce qu'ils voulaient aller où? Disneyland. C'est ça? Il n'y avait plus de place. Non, ils voulaient aller au champ de bataille. Est-ce que vous savez ce que c'est le champ de bataille? Attendez, pas n'importe quel champ de bataille. Ils sont pas partis combattre une petite tribu d'arabes paumés qui vont tailler en pièces en 2 secondes. Non, il était question d'aller combattre les Byzantins. Tabouk, les Byzantins, la puissance par excellence. Et ils pleurent parce que ils n'ont pas été choisis pour se sacrifier. Et nous, on ne veut pas faire des sacrifices. Pourquoi? Pour combattre notre ennemi numéro un, qui est l'ignorance. L'ignorance de la religion et de la dunya. Les deux ensemble. L'ignorance du din et de la dunya. Tu t'imagines, tu prends pendant les 2 mois de vacances des gosses, des enfants de musulmans qui ne vont pas partir, qui sont là. Et pendant 2 mois, tu leur fais le programme scolaire en maths. T'aimes bien les maths, toi. Tu leur fais des maths pendant 2 mois. Franchement, vous ne trouvez pas qu'ils vont retourner à l'école avec la rage de vaincre? Ils étaient nuls en maths maintenant. C'est bon, l'avenir de cet enfant sera radieux, ne serait-ce qu'au niveau terrestre, grâce à toi. Parce que tu as donné 2 mois. Il faut qu'on adopte le système de nos frères. Vous savez, les frères Tablir, vous savez, qui viennent dans les mosquées, qui s'installent pendant 2 jours, 1 semaine, qui vont et qui rabattent les musulmans. C'est les musulmans qui ne viennent pas à la mosquée. Hein, ils les rabattent, ils les ramènent vers la mosquée. Il leur a enseigné à faire les ablutions, à faire la prière. Et si vous savez déjà faire les ablutions et la prière, ils vont vous apprendre autre chose. À réciter du Coran, à apprendre des invocations. Et la meilleure des choses qu'ils vont vous apprendre, vous savez, c'est quoi? C'est d'aller vers vos frères musulmans qui sont ignorants pour les ramener à la religion. Ils vont susciter en vous l'amour de guider les gens. Certains vont me dire, ah non, les tablirs sont égarés. C'est toi qui es égaré. C'est toi. Parce que tu considères tes frères musulmans comme égarés. Dis-moi, à la rigueur, ils font quelques erreurs. Oui, mais c'est parce que je fais une erreur que je suis égaré. Sinon, il n'y a plus de musulmans sur terre. Ouais. Bon, ils ont quelques croyances bizarres. Oui, ben, ils se trompent sur ces croyances, mais ils ne sont pas égarés. Parce qu'on a tous quelques croyances qui sont sans doute erronées. Non, 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 non. Fais mieux que eux. Voilà, c'est ça que je te demande. Fais mieux que eux. Leur méthode ne te plaît pas à 100%, elle te plaît à combien de pourcents? 40. Allez, prends les 40 et rajoute 60. Rien, tu fais rien et ceux qui font, tu les dénigres. Ouais, la communauté n'avance pas. Si elle avance, elle avance lentement. Voire même elle fait un pas en avant et deux en arrière. Je ne sais pas pourquoi les jeunes musulmans ont peur de donner. Moi, je le vois quand on fait des activités. Il y a ceux qui sont derrière les tables, qui servent. Ouais. Ils sont dépassés. Et tout le monde les regarde. Tout le monde les regarde. Il manque du personnel, ça se voit. Et personne ne bouge. Il y a plein de papiers, de gobelets par terre. Il faut encore qu'on éduque nos enfants. N'est-ce pas? Et personne ne va se mettre debout, prendre un sac poubelle et ramasser tous ces gobelets, ces papiers et les mettre à la poubelle. Pourquoi le jeune musulman d'aujourd'hui, il aime s'asseoir et être servi sur un plateau? Il y a un gros problème d'éducation. Parents qui avaient des enfants, ne servez pas vos enfants sur un plateau. Vous allez en faire des assistés qui vont devenir des boulets dans la communauté. Faites bosser vos enfants chez vous dans la maison en les responsabilisant. Peut-être qu'ils vont grandir avec ce sens de la responsabilité. Ils vont grandir avec le courage. Tu sais, ils vont intégrer la dimension du courage, la dimension de l'effort. Rumaïsa, Umm Sulaym, radiallahu anha. Elle prend son gosse, Anas, il a 8 ans, 9 ans, et elle le ramène à la mosquée. Et elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tiens, voilà mon petit Anas, qu'elle aime bien. Je le mets à ton service. Vas-y, fais-le bosser. C'est pour toi. C'est pour la communauté. C'est pour l'islam. Vous vous rendez compte? Elle prend son gosse, elle le ramène au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, ya Rasulallah, Anas, il est à tes ordres. Tu lui fais faire tout ce que tu estimes nécessaire. Qu'est-ce que va dire Anas, radiallahu anhu? Il va dire, j'ai servi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, Anas était au service de qui? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la communauté. C'est beau ou c'est pas beau? Si elle ne l'avait pas mis au service de la communauté, y serez-vous Anas? Serait en train de jouer à la play, sûr et certain. Serait devant la télé, serait en train de traîner dans la rue, comme c'est le cas pour nos jeunes. Regarde, tu prends ton gosse, tu le fais bosser à la mosquée, tu le fais bosser dans l'association, il s'occupe des autres, il se forme. Allez, ça devient un élément vivant et positif. Il est utile pour la communauté. Tu le gardes pour toi, tu le couves, mais tu l'affaiblis, tu le détruis. Il devient un quoi? Il devient un consommateur, spectateur. Tout ce qui s'est maîtrisé, c'est la critique. Hey, s'il te plaît, ramène-moi un verre de limonade. Allahu Akbar. Bah ouais, c'est normal, il y a l'habitude. À la maison, il dit à sa mère, ramène-moi, elle se met debout, elle court, elle lui ramène. Shukran. C'est un message ? C'est pour toi. Faites bosser vos enfants pour qu'ils soient courageux, afin que lorsqu'ils prendront un peu d'âge, ils bosseront sans doute, inshallah, à la mosquée, dans l'association. Hein, ils apporteront de l'eau au moulin de la da'wah.
Tu as parlé, Hassan, de ce qui était arrivé dans la boîte aux lettres. Tu avais commencé, parce que je t'ai parlé de vous. Tu veux
dire, il t'en a parlé. Ici, chez vous. Ouais. 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 À la kulihal, il faut être optimiste. Et on avance malgré tout. Parfois, il y a des ralentissements. Parfois, on est reboosté, on repart de plus belle. Mais en tout cas, sachez qu'alhamdoulillah, aujourd'hui est meilleur qu'hier. Et on a espoir que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et demain ne sera meilleur qu'aujourd'hui que si et seulement si on décide que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Vous entendez ? Allez, c'est nous qui devons faire l'histoire. Et dans cette communauté, il y a des éléments qui sont extraordinaires, alhamdoulilah. Dernière récolte qu'on a faite dans cette mosquée pour le parking, donc on a atteint les 20 000 euros, c'est ça ? Dans la semaine, vous entendez ? On ouvre la boîte aux lettres de la mosquée et on trouve une enveloppe de 10 000 euros. Ça fait 30 000 euros. Vous vous rendez compte ? Une personne. Elle vient, elle te dépose dans la boîte 10 000 euros. Elle est une personne, vaut la moitié de... Et c'est vrai, hein ? Ça, c'est un hadith. Hein ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens sont comme un troupeau de chameaux. Sur 100 chameaux, tu as du mal à en trouver un de parfait. Mais on arrive à trouver, parmi 100 personnes, un qui sort du lot. Et si tu mets une balance, le 1 vaut 99. Et il y en a, alhamdoulilah. Et il y en a de plus en plus. C'est arrivé aussi chez nous, à Ikoda. On a fait un appel. Une fois, c'était pour les enfants du Sénégal, les talibés. On a récolté 2500 euros. Au courant de la semaine, on retrouve une enveloppe de 5000 euros dans la boîte à lettres. Oui. Une autre fois, on récolte de l'argent. Je ne sais même plus c'était pourquoi. À nouveau, une enveloppe de 5000 euros. Allez, mashallah, tu as dans cette communauté, alhamdoulilah, des gens qui font la fierté de l'islam et de la communauté. Ala kulli hal, vous tous, vous faites la fierté de l'islam. Hein, celui qui a ramené une montagne d'or, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, est celui qui a ramené 500 grammes de farine. Hein, vous savez qu'ils ont le même poids aux yeux de Dieu. Car l'un a donné en fonction de ce qu'il pouvait, et l'autre a donné aussi en fonction de ce qu'il pouvait. Il se peut qu'un euro donné sincèrement soit fructifié, si bien qu'il devienne une montagne de euros, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah yibarak fikoum yahfoudkoum. Vous restez les meilleurs, bien entendu, parce que vous êtes musulmans et vous êtes soucieux de venir à la mosquée, de ramener vos femmes et vos enfants. Qu'Allah nous préserve et nous protège et fasse qu'on soit au service de sa religion tout le temps.